Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia, car le Seigneur a fait des prodiges, Alléluia. Aux yeux des nations, il a révélé sa justice, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes frères, pensons-nous à chanter au Seigneur en reconnaissance pour tous ses bienfaits. Ce cantique nouveau n'est pas simplement un passage de l'Écriture que nous entendons dans l'introïte du cinquième dimanche après Pâques. C'est un ordre, un commandement que nous devons mettre en pratique parmi tous les autres commandements que nous recevons de la religion. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car le Seigneur a fait des prodiges. Alléluia. Notre Seigneur s'est incarné, il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour notre salut. Nous lui devons tout. En ce quatrième dimanche après Pâques, eh bien, mes très chers frères, l'Église nous encourage et nous console, et tout ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit sera encourageant, je l'espère, et sera fait pour fortifier notre foi. Nous avons donc plusieurs choses à voir dans ces textes du quatrième dimanche. Premièrement, nous poserons la question, faisons-nous bon usage de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre durant le temps pascal? Et nous verrons aussi les raisons pour lesquelles le chrétien est parfois triste, et même souvent triste. En deuxième point, notre deuxième point consistera à voir certains fondements théologiques qui requis pour que le Saint-Esprit opère dans les cœurs. Et nous allons voir que, selon les commentateurs, dans les textes de la messe d'aujourd'hui, nous avons une sorte de résumé de toute la révélation chrétienne. Et nous terminerons par un troisième point, en examinant la caractéristique majeure de la vie de ceux qui sont de véritables chrétiens. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Écoutez ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où allez-vous, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Notre Seigneur, dans son infinie bonté et selon la tâche que Dieu le Père lui avait donnée, notre Seigneur a préparé ses disciples tout au long de son ministère temporel, son ministère public. Il a préparé ses disciples à son départ. Il n'a jamais promis à ses disciples qu'il serait avec eux pendant 80 ans, pendant 100 ans, ou même qu'il serait là, qu'il serait immortel et qu'il ne mourrait jamais, et de génération en génération, il serait toujours là avec ses disciples. Ce n'est pas ce que notre Seigneur a promis pour sa première venue. Ce n'est pas quelque chose qui était dans le plan de Dieu pour la rédemption des hommes. Il se trouve que notre Seigneur a vécu pendant 30 ans dans une vie cachée. Ensuite, il a vécu une vie publique pendant 3 ans, et c'est l'essentiel de ce que racontent les évangiles, et tout en nous ayant raconté sa naissance, son incarnation et sa naissance. Et il se trouve que pendant 3 ans, notre Seigneur a bien sûr fait ce que le Messie devait faire, selon les prophètes, les prophéties des prophètes, mais aussi il se trouve que notre Seigneur a très rapidement enseigné ses disciples, progressivement d'ailleurs, par gradation, mais sur ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire pour souffrir, pour mourir et pour ressusciter le troisième jour selon les prophètes, selon les Écritures. Il leur a aussi annoncé ce qui devait arriver après son départ. Et c'est pour cela que nous en sommes encore au quatrième dimanche après Pâques, et déjà notre Seigneur est en train de nous parler du Saint-Esprit qui nous sera donné, non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, mais la semaine encore suivante. C'est-à-dire lors de la fête de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas brutalement averti ses disciples de sa souffrance et de son départ. Il leur a répété d'une façon graduée, de telle sorte que lorsque tout se serait accompli, il prendrait conscience, sous l'influence du Saint-Esprit, il prendrait conscience de ce que notre Seigneur leur avait dit, et il se souviendrait de tout ce que notre Seigneur leur avait dit. Un petit peu comme s'il l'avait emmagasinés dans leur mémoire, mais sans comprendre ce dont il était question. Et quand le temps a été de se souvenir avec fruit de ce que notre Seigneur leur avait dit, effectivement, tout ceci leur est revenu à l'esprit sous l'action du Saint-Esprit. C'est quelque chose que l'on peut constater, ce n'est pas une chose qui est purement miraculeuse, puisqu'on peut le constater, c'est miraculeux dans le sens où cela fait partie du destin et de la fonction des apôtres. Mais, par exemple, quand un enfant apprend pendant des années à l'école la grammaire, l'orthographe, les mathématiques, tout ceci rentre dans son esprit, mais sans qu'il sache vraiment à quoi bon. Mais lorsqu'il est devenu grand, et qu'il est confronté justement à la nécessité d'écrire, de lire, de compter, tout d'un coup, tout ce qu'il a appris lui revient et devient utile pour lui. Donc, mutatis mutandis, évidemment, tout en prenant compte aussi, bien sûr, l'œuvre du Saint-Esprit, il se trouve que les apôtres ne comprendraient ce que leur a dit notre Seigneur qu'après la résurrection, comme nous le voyons avec les disciples d'Emmaüs et avec les autres. « Il vous est utile, dit notre Seigneur, que je m'en aille. » Il y a là une grande vérité qui est que si nous nous attachons à notre Seigneur simplement pour les bienfaits que notre Seigneur pourvoit à notre sensibilité, il se trouve que nous ne pourrons jamais aller plus loin. Ça, c'est vrai dans la vie spirituelle, ce n'est pas exactement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Disons simplement que si les apôtres s'étaient contentés d'avoir la présence de notre Seigneur, notre Seigneur aurait été, une présence de notre Seigneur qui n'aurait pas été terminée par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur, mais une présence, disons, paisible de notre Seigneur sur terre, qu'est-ce qui se serait passé? Nous en avons un aperçu dans l'Évangile, lors d'une des multiplications des pains, lorsqu'il est dit que la foule allait enlever notre Seigneur pour le faire roi. Et notre Seigneur, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a dit, c'est le moment ou jamais, s'ils ne comprennent pas là, ils ne comprendront jamais? Non, il s'est caché. Pourquoi s'est-il caché? Parce que notre Seigneur ne sert pas aux hommes. Notre Seigneur est servi par les hommes, et il se trouve que cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous sera donné par surcroît. Toutes les bénédictions, tout le pain miraculeux dont nous avons besoin pour vivre, eh bien, le Seigneur nous le donne dans la mesure où nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si notre Seigneur avait consenti à être proclamé roi par les foules, quelle aurait été la contrepartie? Il aurait été le grand boulanger de génération en génération dans la terre d'Israël, et à jour fixe, en quelque sorte, le peuple qui l'aurait fait roi lui aurait demandé de multiplier les pains, de telle sorte qu'il aurait eu toujours du pain. Notre Seigneur aurait été donc, sous un certain rapport, roi du peuple juif, mais en réalité il aurait été plutôt, encore une fois, le boulanger général, et malheur à lui, si j'ose dire, s'il n'avait pas été au rendez-vous pour la multiplication des pains hebdomadaires ou quotidiennes, que sais-je. Pourquoi notre Seigneur s'est-il caché? Parce que notre Seigneur ne se laisse pas instrumentaliser par les hommes. Pourquoi est-ce que, j'en profite pour dire quelque chose ici, quelque chose sur un problème contemporain, pourquoi est-ce que les catholiques, enfin prenez ça avec des guillemets, sont dans une impuissance chronique, déjà depuis assez longtemps, une impuissance chronique face à leurs ennemis, vous voyez qui sont les ennemis des catholiques, il y en a plusieurs types, de toutes sortes de types, pourquoi est-ce que les ennemis sont aujourd'hui, les catholiques sont aujourd'hui, entre guillemets, sont d'autant toujours plus asservis, impuissants face à leurs ennemis qui semblent être tout-puissants? Eh bien, c'est parce que ils croient pouvoir asservir la religion, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, à un bien-être temporel, et bien sûr, le bien-être temporel qui consiste à être en paix chez soi est un grand bien que nous devons et nous pouvons demander à Dieu, bien entendu. Normalement, les princes sont là pour nous assurer ce bien-être. Maintenant, il se trouve que on évangélise aujourd'hui en disant que s'il y a une majorité de gens qui se réclament du Christ roi, il va se trouver que le Christ roi va venir et va nous rendre la paix. Alors après, ça se décline d'une manière ou d'une autre. Vous avez des gens qui sont capables de grimper sur le sommet des montagnes, en bonne compagnie d'ailleurs, et de dresser des croix en haut, et quand on leur dit « alors vous dressez une grande croix, vous êtes donc chrétien, parce que, je ne sais pas, telle croix a été abattue par tel anarchiste, tel abruti, vous dressez des croix, vous êtes chrétien, donc vous... Je suis chrétien sociologique, je ne crois pas Mais je crois que la France est catholique et donc du coup elle a besoin, il n'y a pas de France sans le Christ. Il n'y a pas de boulangerie sans un Messie qui multiplie les pains. Et le Messie qui est ainsi malmené s'enfuit, se cache et refuse de régner. Le même Messie qui dira à Pilate, le représentant de l'empereur, « Je, tu le dis, je suis roi ». Alors, vous êtes roi ou vous n'êtes pas roi? Vous voulez régner ou vous ne voulez pas régner? Je ne veux pas régner dans n'importe quelle situation. Je ne veux pas régner pour des gens qui se fichent éperdument de moi. Je ne veux pas régner sur des gens et pour des gens, pour combler de bienfaits, des gens qui ne suivent pas, qui ne se soumettent pas humblement à ma parole et qui ne la reçoivent pas avec docilité, pour reprendre les paroles de Saint Jacques, rejetant toute souillure et toute poussée au mal. Mes très chers frères, vous comprenez pourquoi nous sommes apparemment abandonnés par notre Seigneur. En réalité, nous ne sommes pas abandonnés, car il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Encore faut-il être avec lui. Si nous voulons utiliser notre Seigneur, dans quelque but, quelque légitime qu'il soit, je ne dis pas que ce n'est pas un but légitime, je dis dans quelque but temporel que ce soit, si nous voulons utiliser notre Seigneur, ce n'est pas qu'il n'est pas capable de nous répondre, c'est que notre Seigneur ne veut pas nous répondre et que ce, notre Seigneur se cache. Il se cache. Notre Seigneur. Et il ne se cache pas comme un roi caché qui piloterait les choses de loin, il se cache pour qu'on ne le trouve pas. Et le résultat, mes très chers frères, vous le savez, le résultat, et les résultats sont divers et variés, c'est cette impuissance complète, c'est cette, si j'osais le dire, mais j'oserais le dire, c'est cette féminisation de plus en plus revendiquée, de plus en plus accrue de ce qu'on appelle l'extrême droite, ce qui est tout à fait merveilleux. Maintenant, il n'y a plus que des bonnes femmes qui sont mises en avant. Et qui militent, qui parlent, qui font des... Et puis qui vont vous apprendre qu'il ne faut pas s'en prendre aux hommes, car le patriarcat n'a jamais existé, et c'est une invention féministe. Donc vous voyez, tout ceci, alors on dit ça c'est bien, c'est la nouvelle génération, les femmes sont de plus en plus présentes. C'est merveilleux, notre Seigneur n'en finit pas de se cacher. Il se cache, mais à un tel point qu'il déserte totalement. Vous allez dire, mais on dirait que vous insultez Dieu. Non, je n'insulte pas Dieu. Au contraire, je lui rends gloire. Car notre Seigneur n'est pas le grand serviteur de la nation qui croit à peine en lui, mais qui est catholique parce qu'elle n'est pas autre chose. Notre Seigneur est notre roi, il est notre maître, il est notre Dieu, et nous devons nous soumettre très humblement à lui. Sinon, notre Seigneur, ne nous reconnaissant pas pour sien, nous livre à ceux qui sont nos ennemis, à notre pire cauchemar, et encore une fois, mes très chers frères, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la foi, que Dieu nous donne la charité pour être martyrs, nous n'avons encore rien vu. L'impiété chronique des catholiques, entre guillemets, attire la colère de Dieu. Et nous n'avons encore rien vu, mes très chers frères, que Dieu nous garde. Je ne suis pas un prophète de malheur, car je ne connais pas l'avenir. Tout ce que je vois, c'est qu'on se moque de Dieu, et que Dieu, notre Messie, le Messie, se cache. Il vous est utile, dit notre Seigneur, que je m'en aille. Donc notre Seigneur se cache lorsque on veut l'utiliser, à des fins temporelles, même légitimes. Notre Seigneur, même si nous l'abordons bien et que nous sommes soumis à lui, notre Seigneur doit se dérober à nos yeux sensibles. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'une certaine manière, toutes les erreurs que nous avons dites, que nous venons d'évoquer, elles peuvent être aussi commises par les bons chrétiens, par les vrais chrétiens. Après tout, elles peuvent être transposées dans un autre domaine, mais ils peuvent faire les mêmes erreurs, parce que, en fait, ce sont des erreurs qui proviennent de l'esprit charnel, qui viennent de la concupiscence. Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra point à vous. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans nos cœurs pour nous rendre semblables et identiques, pour nous identifier à notre Seigneur Jésus-Christ, sans que nous soyons en quelque sorte détachés, pas d'une certaine manière, de notre Seigneur. Si notre Seigneur était encore physiquement présent avec nous, nous ne pourrions pas comprendre comment nous sommes membres de son corps. Mais maintenant qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu, où il règne, eh bien, il se trouve que nous pouvons comprendre, en tant que membres de l'Église, que nous sommes membres de son corps mystique, membres d'un corps inaltérable, membres d'un corps très saint, très pur, membres de son Église, C'est-à-dire que l'Église ne peut pas être corrompue, rongée, pleine de pustules. Tout ceci, je ne parle pas des péchés des chrétiens en état de voie. Je parle de l'hérésie, je parle de l'apostasie. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous ne pouvons pas dire cela, à moins d'insulter notre mère. Et qui voudrait, qui oserait insulter sa mère? Il faut être totalement dénaturé pour insulter sa mère. Eh bien, mes très chers frères, nous ne sommes pas dénaturés. Notre Seigneur est au ciel. Et nous, grâce à cela, nous pouvons comprendre que nous sommes les membres de son corps mystique. Si nous pouvons le comprendre, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions être des membres vivants de son corps mystique. Notre Seigneur devait monter au ciel, il montera au ciel dans quelques semaines, devait monter au ciel, d'où il nous enverrait, de la part de son Père, le Saint-Esprit. Quand le Christ était avec nous, mes très chers frères, qu'avons-nous fait de lui? Mettons-nous à la place des apôtres. Pendant 3 ans, ils ont vécu avec notre Seigneur. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont touché. Ils l'ont écouté. Ils étaient sur la montagne lorsqu'il a multiplié les pains plusieurs fois. Ils étaient dans la barque lorsqu'il a marché sur les eaux, lorsqu'il a commandé à Saint-Pierre de venir à lui à sa rencontre et que Saint-Pierre a marché sur les eaux. Ils étaient avec lui dans la barque lorsque la barque ne pouvait pas être submergée, quoique notre Seigneur dormait à la proue. Ils étaient dans la barque avec notre Seigneur lorsque la barque a soudainement touché terre après avoir été prise dans la tempête. Ils étaient avec notre Seigneur lorsqu'il a guéri les lépreux, rendu la vue aux aveugles, etc., chassé les démons, etc. Ils étaient avec lui lorsque un troupeau de 2000 pourceaux s'est précipité dans la mer possédé par les démons. Ils étaient avec lui lorsqu'ils ont vu ces malheureux qui brisaient leurs chaînes, ces malheureux possédés qui vivaient dans des sépulcres, être entièrement délivrés de cette légion de démons. Ils étaient avec lui, mes très chers frères. Ils étaient avec lui. Et le résultat de cette merveilleuse aventure, quelle a été? Lorsqu'il a été pris et saisi par les gardes à Gethsémani, ils ont tous fui. Quelques-uns l'ont suivi. C'est vrai, Saint Jean l'a suivi jusque dans la cour du souverain prêtre, et jusqu'à la croix, c'est vrai. Il se trouve que Saint Jean a fait venir et rentrer dans, il a parlé au portier, il a fait rentrer dans la cour du souverain pontife Saint-Pierre. Et qu'a fait Saint-Pierre? Il l'a renié 3 fois. Ô homme, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et il a fait des paroles très fortes, des jurements, il a dit je ne le connais pas. Par 3 fois. Alors que notre Seigneur était en quelque sorte à 2 pas de lui. Qu'avons-nous fait de la présence de notre Seigneur, mes très chers frères? Nous n'avons fait que manifester notre lâcheté. Nous l'avons abandonné, nous l'avons renié. Quand je dis nous, c'est nous dans les apôtres. Parce que si les apôtres qui étaient les apôtres ont fait ce qu'ils ont fait, nous aurions fait pire. C'est comme pour notre père Adam, comme nous le disons de temps en temps. Donc, vous voyez, mes très chers frères, il est utile pour vous que je m'en aille. Si notre Seigneur était avec nous, s'il était sur ce canapé, comme on dit certains, et avec nous, et qu'est-ce qu'on fait? On lui demanderait, on lui tendrait un micro pour telle chaîne YouTube, et on lui dirait, Seigneur, vous qui êtes le vrai Messie, qui n'êtes pas reconnu par certains, qu'on ne peut pas nommer, dites-nous un petit peu un mot. Mes très chers frères, il est utile que notre Seigneur ne soit pas avec nous, ne serait-ce que pour que nous n'ayons pas la tentation de le profaner, de désacraliser sa présence par une attitude qui n'a même pas été celle des apôtres. Après tout, trahir notre Seigneur comme Judas l'a fait pour 30 deniers, bon, 30 deniers c'est toujours bon à prendre, renier notre Seigneur dans la cour du souverain pontife au moment où il y a le procès de notre Seigneur, qui n'est pas un peu faible et lâche et ne se laisse pas surprendre par une bonne femme qui vient lui crier au nez vous êtes de cette troupe et d'ailleurs votre accent vous trahit. Qui ne se laisserait pas prendre? Mais donc il était bon pour les apôtres, il était utile pour les apôtres que notre Seigneur s'en alla afin qu'il leur donnât le Saint-Esprit. Et il est bon pour nous, mes très chers frères, que notre Seigneur ne soit pas avec nous, parce que sinon, vous verriez, mes très chers frères, qu'il serait haï et crucifié par ceux-là même qui aujourd'hui ne jurent que par lui. Pourquoi? Parce que refusant d'être à leur solde, refusant de faire ce qu'il lui conseille de faire, eh bien, ils seraient les premiers à lui cracher dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas de pape aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de petits militants papales, papistes et autres, conclavistes et autres, qui seraient là en train de tanner le pape pour lui dire « Votre sainteté, il faudrait faire ça, votre sainteté, je vous passe un article là, votre sainteté, vous savez, j'ai un brouillon d'encyclique, votre sainteté, vous savez, là je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, faites attention, le magistère ordinaire, etc. Et puis nous vous relayons, alors faites des trucs qui rentrent dans le cadre, etc. » Pourquoi n'avons-nous pas notre Seigneur? Pourquoi n'avons-nous même pas de pape? C'est parce que nous n'en sommes pas dignes. Toutes ces petites personnes qui sont là en train de dire « il faut être à plat ventre devant le pape », etc., ce seraient les premiers à vérifier si c'est vraiment un pape et s'il ne faudrait pas le déposer des fois qu'il leur aurait déplu. Mes très chers frères, il est utile que notre Seigneur ne soit pas avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sorte de dérédiction qui nous montre que, livrés à nous-mêmes, nous ne sommes capables que du pire. Non seulement nous ne pouvons rien, mais nous ne sommes capables que du pire. Nous ne sommes capables, avec lui, que de manifester notre lâcheté et notre reniement. Sans lui, mais avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de désirer devenir comme il est, tel il est. Mes très chers frères, l'homme apprend mieux par la souffrance que par la félicité. Nous sommes dans le temps pascal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant la fête de Pâques, le jour de la résurrection, et après, il y a deux carêmes. Il y a un carême de pénitence, 40 jours avant Pâques, et il y a un carême, 40 jours, de joie, 40 jours et même 50 jours après Pâques. Nous sommes, évidemment, il faut être en plein dans la liturgie pour s'en rendre vraiment compte, mais nous sommes dans un carême de joie. Tout est allégé, tout est lumineux, nous avons ce magnifique cierge pascal qui est illuminé à chaque messe. Nous avons le chant Alléluia, qui est ce cri de joie qui revient très souvent, beaucoup plus souvent que durant tout le reste de l'année. Nous sommes dans un temps de joie, nous sommes dans un temps lumineux, qui correspond d'ailleurs aussi dans la saison à la renaissance de la nature, etc. Donc nous sommes même portés par les éléments à nous réjouir. Que faisons-nous pendant le temps pascal? Est-ce que nous sommes particulièrement attachés à croître dans les vertus? Est-ce que nous sommes particulièrement attachés à nous sevrer du vieux levain qu'est le vieil homme? Qu'est-ce que nous faisons? Mes très chers frères, nous, bien souvent, alors je ne dis pas que nous ne faisons pas des efforts, mais vous voyez, mes très chers frères, il se trouve que bien souvent, nous apprenons beaucoup plus la fidélité et nous désirons beaucoup plus le ciel dans la souffrance que dans la joie, dans la félicité. Vous êtes maintenant dans la tristesse, et parce que je vous ai dit ces choses, dit notre Seigneur, la tristesse a rempli votre cœur. Il nous faut mettre à profit une certaine tristesse, qui est une tristesse qui est aujourd'hui presque incompréhensible, surtout par ceux qui se veulent les vrais chrétiens, c'est-à-dire la tristesse de l'exil sur terre. Sous prétexte qu'on veut faire de nous des pions, etc., ce qui est par ailleurs vrai, on veut s'enraciner. Il faut s'enraciner, les racines dans le sol, nous sommes les enfants du sol, etc. Alors, sous un certain rapport, on comprend qu'on puisse dire ça. Sous un autre rapport, c'est un langage antichrétien. Vous voyez, la patrie charnelle, comme on dit, alors aujourd'hui tous les chrétiens, enfin en tout cas tous les militants de droite au moins, ont cette expression à la bouche, la patrie charnelle. Ça a été quand même inventé, c'est une expression qui a été inventée par Barès, qui était vraiment un païen revendiqué, qui était anti-chrétien. Vous voyez, charnel pour le chrétien est quelque chose qui doit le révulser. Dès qu'on dit ceci est charnel, hop, le chrétien est en quelque sorte en alerte, en éveil, on parle d'un ennemi. Les désirs charnels, les paroles charnelles, les attitudes charnelles, les pensées charnelles, etc., tout ceci, et je ne parle pas simplement à la chair au sens limité du terme, tout ce qui est mondain, tout ce qui est antichrétien, tout ce qui n'est pas compatible avec, pour être un moyen de sanctification, tout ceci est charnel, et tout ceci nous fait horreur. Nous sommes dans la tristesse parce que nous sommes exilés du ciel, mes très chers frères. Depuis que nous existons, nous sommes en exil. Et notre âme désire, depuis que Dieu nous a créé notre âme rationnelle, nous sommes en exil, nous sommes loin du ciel, et il n'y a qu'une certaine tristesse qui nous permet de désirer sortir de cet état. Si nous sommes dans la félicité, nous aimons notre état, nous nous y enracinons, et loin de nous élever, voyez, quiconque sans racine ne peut pas s'élever. Nous descendons aux enfers. Plus nous nous enracinons dans ce monde-ci, plus nous poussons nos pieds vers l'enfer. Plus nous nous élevons, plus nous nous sevrons des choses du monde. Alors vous allez dire, ça veut dire donc qu'il ne faut pas aimer sa patrie, etc. Il faut l'aimer selon Dieu. Il faut l'aimer parce que elle est le cadre du devoir, de nos divers devoirs d'État. Mais si nous en faisons une idole, alors nous ne n'aimons plus Dieu et nous sommes comme les autres dont l'idole est le mondialisme. Notre idole, c'est le localisme, c'est le nationalisme, c'est le régionalisme, que sais-je. Idole, une idole vaut bien une autre idole. Vous adorez Dagon, moi j'adore Baal, mais nous sommes tous les deux, eh bien nous sommes tous les deux des idolâtres, mes très chers frères. Donc nous sommes dans une certaine tristesse. Il y a une tristesse qui mène à la mort, dit saint Paul, et c'est la tristesse de ne pas être assez, quand on s'imagine qu'on n'est pas assez mondain, donc on est triste de ne pas jouir assez bien des choses d'ici-bas, assez des biens d'ici-bas. Maintenant, il se trouve qu'il y a une tristesse selon Dieu qui provient de la contrition, et qui provient de la compunction, qui provient de tous ces sentiments qui font que nous nous détachons, non sans difficulté bien sûr, mais des biens du monde, et que nous nous tournons vers Dieu, et notre vieil homme est triste. Et plus notre vieil homme est triste, plus c'est un indice que nous sommes sur la bonne voie. Mais encore, faut-il garder ses yeux vers Dieu, tourner vers Dieu. Notre corruption, mes très chers frères, nous fait prendre le bien pour le mal. Et elle nous fait prendre notre félicité, pour la vraie félicité pour une tristesse, tandis qu'elle nous fait prendre ce qui est mauvais pour nous, pour des choses qui sont bonnes, des choses qui sont désirables. Nous en avons déjà parlé. Si je ne m'en vais pas, dit notre Seigneur, le Saint-Esprit, le Paraclet, ne viendra point à vous. Que faisons-nous, mes très chers frères, je le répète, de la joie du temps pascal? En réalité, pas grand-chose. La mettons-nous à profit pour aimer Dieu? Eh bien, mes très chers frères, que chacun se juge soi-même, mais on peut dire que la réponse, c'est probablement pas tellement. Nous sommes pourtant dans un carême de joie. Eh bien, il nous est probablement moins profitable que le carême de pénitence qui a précédé la fête de Pâques. Alors, mes très chers frères, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous passons à notre deuxième point. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, dit notre Seigneur, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Ce sont des paroles un peu mystérieuses qu'il nous faut expliquer rapidement. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. La foi nous découvre trois états, nous apprend trois états où l'homme se trouve. Il y a tout d'abord l'état de péché. Quand on est sans Dieu, quand on n'a pas la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et quand l'amour propre règne en maître. C'est l'état de péché, touchant le péché. Ensuite, il y a l'état de justice. C'est un état où, par la grâce, on surmonte le péché et où l'on acquiert la justice par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et par l'espérance des biens surnaturels. C'est la justice. Cet état de justice est l'état qui caractérise ceux qui bénéficient de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est une grâce gratuite qui fait que, enfants du diable autrefois, nous sommes maintenant enfants de Dieu, non seulement enfants de Dieu selon sur le papier, comme on dit, ou dans les registres de baptême, mais nous sommes enfants de Dieu dans la réalité de notre expérience, dans la réalité de notre vie. Et un troisième état, qui est appelé par notre Seigneur dans saint Jean, le jugement, alors c'est un terme qui peut être ambigu, plutôt polyvalent, c'est-à-dire que c'est un état de paix dans le ciel, où notre Seigneur Jésus-Christ régnera avec ses membres, et où le diable sera vaincu et défait. Le jugement du diable est le triomphe des justes. Bien entendu. Il y a bien sûr le jugement des pécheurs qui seront condamnés, il y a le jugement des justes qui seront confirmés dans leur justice. Le jugement consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc le jugement est à la fois quelque chose de terrifiant et quelque chose de très encourageant d'une certaine manière. Dieu est un juste juge, il punira le péché, mais il récompensera la justice. Dans le Christ, nous devons être justes, nous pouvons être justes par la charité qui a été versée dans notre cœur, par le baptême que nous avons reçu. Nous sommes passés de l'état de péché à l'état de justice, et le jugement scellera la destinée éternelle de chacun. Il y a là ici, mes très chers frères, une sorte de résumé de la doctrine catholique, dans le sens où, si nous ne tenons pas fermement ces trois grands points, cette doctrine des trois états de l'homme, l'état de péché, l'état de justice et l'état de jugement, l'état définitif, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous. Alors, vous allez dire, mais moi je crois tout ce que l'Église croit, alors le Saint-Esprit peut... c'est bien d'y croire, mais encore faut-il y croire, disons, sans remettre en question ce qui est enseigné. Par exemple, si nous minimisons la doctrine du péché originel, nous allons par conséquent minimiser tout ce qui est dit de la justice. Souvent, dans ces derniers siècles, des théologiens ont dit, ou des prédicateurs ont dit, que le péché originel n'était pas quelque chose d'aussi dramatique qu'on a pu le croire, qu'on avait pu le croire au temps patristique. Les conséquences de la chute ne sont pas aussi terrifiantes qu'on peut l'imaginer. Après tout, nous n'avons fait que perdre des choses que Dieu avait rajoutées à notre nature. La chute n'a jamais fait de nous que des êtres finalement naturels, des êtres normaux, alors qu'avant nous étions des êtres anormaux, mais dans le sens de augmenter un petit peu. C'était un peu comme si le bon Dieu nous avait mis des puces surnaturelles, etc., qui faisaient de nous une humanité augmentée. Nous avons perdu les puces, que sais-je, nous avons perdu la connexion à l'Internet. Bon, ben maintenant nous sommes redevenus à ce que nous étions. Hein, c'est ce qu'on dit, et c'est totalement faux, en réalité. Nous étions dans un état qui était l'état natif, et l'état naturel de l'homme, dans le sens où Dieu n'a pas voulu créer, de facto, Dieu n'a pas voulu créer l'homme dans un autre état que l'état d'innocence, dans lequel on constate une base naturelle, une base surnaturelle, des dons surajoutés, des dons qui étaient attenants à l'état d'innocence, sachant que l'état d'innocence, c'est l'état où la nature humaine est normale. Lorsque nous avons chuté, nous avons perdu non seulement des choses, une casquette qui ne faisait pas partie de notre crâne, mais nous avons perdu un grand nombre de choses, et encore plus qu'on peut l'imaginer, qui fait que, sortis du paradis terrestre, nous rampions sur le sol, et nous étions, si Dieu ne nous avait pas revêtus de peau de bête, et s'il ne nous avait pas donné la raison, et s'il ne nous avait pas donné sa loi, nous serions devenus les monstres de la création. Les compagnons des démons, d'une certaine manière, même si il y a une différence entre l'ange déchu et l'homme déchu. Heureusement, l'homme déchu pouvait encore être restauré en grâce. Le démon, c'est autre chose, mais nous n'en parlons pas ici. Donc, il y a l'état de péché. Si nous minimisons l'état d'innocence, nous minimiserons l'état de péché. Et donc, lorsque nous voyons le Sauveur du monde venir s'incarner, souffrir et ressusciter pour nous, nous allons dire que finalement, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, qu'il en a fait peut-être un peu trop, parce qu'après tout, il s'agissait simplement de nous donner un coup de main pour nous remettre sur pied, il ne s'agissait pas non plus de faire quelque chose comme si nous étions totalement morts et esclaves du démon et incapables, sans lui, de rien faire de bon. Vous voyez, minimisez le péché originel, vous minimiserez le Christ. Dites que l'homme entaché du péché originel n'est jamais que l'homme tel que Dieu aurait pu le créer, un homme finalement naturel, avec une concupiscence naturelle, avec des faiblesses naturelles, eh bien vous faites du Messie celui qui vient nous donner un coup de main. Le Messie, le grand boulanger qui chaque semaine va vous faire du pain frais, bien chaud et en plus gratuit. C'est une erreur. Ce Messie-là, si vous l'abordez sous cet angle-là, il se cachera. Il se cachera pourquoi ? Parce que vous ne l'abordez pas de la bonne façon. Donc vous voyez, le péché, tout d'abord. Nous ne devons pas minimiser la doctrine de la religion sur le péché, l'état d'innocence, l'état de péché, l'état de l'homme sans Dieu. Sinon, nous allons, par conséquent, et nécessairement minimiser la grâce de notre Seigneur. Il y a ensuite la doctrine sur la justice, cette justice qui nous est restituée par le sang du Christ, et c'est le nouvel Adam qui répare les fautes catastrophiques du premier Adam. La justice qui est beaucoup plus qu'un état fugitif dans lequel le chrétien peut être juste après, quelques secondes après avoir reçu l'absolution et ensuite il retombe tout doucement dans ses anciens travers, alors que ça soit une expérience factuelle, ça c'est un fait malheureusement pour beaucoup, mais il se trouve que ce n'est pas l'état normal du chrétien, ça c'est un état anormal d'ailleurs, dans lequel les chrétiens ont été encouragés à rester par des théologiens véreux, si l'on peut dire. Ça, c'est une autre question. Maintenant, il se trouve que l'état de justice, c'est un état qui est préférable même à l'état d'innocence. Parce que l'état d'innocence, après tout, c'était l'état dans lequel l'homme devait encore être mis à l'épreuve pour voir s'il aimait Dieu et s'il était capable de faire usage de la liberté que Dieu lui avait donnée. Nous sommes maintenant, nous l'avons perdu, plus personne ne sera jamais en état d'innocence. Maintenant, l'état de justice est préférable. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas sous un certain rapport tout seul. Adam n'était pas, à strictement parler, tout seul. Il avait les diverses grâces de Dieu pour user en bien de sa liberté. Mais on voit comment il en a usé. Nous ne sommes pas tout seuls parce que nous avons le Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Christ n'a pas été donné à Adam en état d'innocence parce qu'il était dans un état d'intégrité, de rectitude, de droiture qui lui permettait, avec l'aide des grâces de Dieu, de faire le bon choix. Tandis que nous, nous sommes incapables de faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, le Saint-Esprit nous est donné, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous est donnée. Le Saint-Esprit et la grâce de Dieu sont deux choses distinctes, mais il n'y a pas de grâce sans Saint-Esprit, il n'y a pas de présence de Saint-Esprit, du Saint-Esprit sans la grâce non plus. La grâce nous est donnée de telle sorte que nous puissions, mus par le Saint-Esprit, faire ce que nous devons, désirer ce que nous devons désirer et faire ce que nous devons faire. C'est pour ça que c'est une chose si importante de se préparer à la fête de la Pentecôte pour être capable de recevoir quelque chose des grandes grâces qui sont données à ce temps-là, même si en tout temps de l'année liturgique, bien entendu, il faut se tourner vers Dieu. L'état de justice, donc, est un état merveilleux dans lequel seul le chrétien peut se trouver, et il se trouve que si on érafle la doctrine de la justice, en étendant la justice, les actes de justice, à ceux qui n'ont pas la charité, en disant, vous savez, il n'y a pas que les chrétiens en état de grâce qui sont capables de faire le bien, il y a aussi les chrétiens qui ne sont pas en état de grâce, il y a aussi les païens, il y a aussi plein de gens mécréants, on n'a pas besoin à strictement parler de la charité pour faire le bien. Personne ne dit que l'homme ne peut que faire des choses répréhensibles par la loi lorsqu'il n'a pas la charité. Personne n'a jamais dit cela. Maintenant, il se trouve que faire le bien, c'est faire un bien, c'est faire le bien selon Dieu, un bien que Dieu récompense. Donc, si vous ne faites pas le mal, et même si vous faites certaines choses qui ne sont pas répréhensibles, et même qui sont intrinsèquement bonnes, mais que vous ne faites pas pour l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas être dit faire le bien. Prenons un exemple, nous donnons souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui est frappant et je pense qu'il y a maintenant prescription, personne ne doutera de cet exemple que nous allons donner. On a dit pendant toutes les années 70, 80, 90, on disait, regardez, c'est tellement bien, regardez ces gens qui font de l'humanitaire, ces gens qui donnent de leur temps, qui donnent plusieurs années de leur vie gratuitement pour aller, je ne sais pas, en Afrique ou ailleurs, aider les gens, faire des écoles, creuser des puits. C'est tellement bien, et ça montre bien qu'il n'y a pas que les chrétiens qui font le bien, il n'y a pas que ceux qui ont la grâce qui font. Alors, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tous ces gens qui nous ont été donnés par les faux chrétiens comme des exemples que l'on peut faire beaucoup de bien sans Dieu, maintenant qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, maintenant il y a des scandales qui apparaissent, et on s'aperçoit que tous ces gens qui, je ne dis pas tous, évidemment, certains n'ont pas pu faire le mal, mais d'autres, la plupart, on s'aperçoit que tous ces gens qui construisaient, qui des écoles, qui faisaient, qui creusaient des puits, etc., ça donnait à la traite des enfants, ça donnait à la traite des femmes, etc., ils faisaient toutes sortes de turpitudes, des choses les plus vraisemblablement atroce, sous couvert d'organisations non gouvernementales, sous couvert d'organisations humanitaires envoyées par les gouvernements, etc. Maintenant, on s'aperçoit que c'était une pratique de corruption généralisée et que les peuples qui crevaient de faim et de soif auraient peut-être mieux fait de se débrouiller tout seuls et auraient sans doute moins souffert, pauvres gens, que Dieu ait pitié d'eux, mais auraient moins souffert si toutes ces organisations humanitaires n'étaient pas venues et ne leur avaient fait transformer leur vie déjà très pénible en un enfer moral et humain. Donc vous voyez ce dont l'homme est capable, ce dont il est capable lorsqu'il n'opère pas par la charité. Il est capable de faire certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais regardez les à côté. Il est incapable de s'empêcher de faire le mal. Donc certes, telle personne a creusé un puits. Certes, telle personne a distribué, je ne sais pas, des sacs de riz, que sais-je. Je ne parle pas des vaccins et de l'école, parce que tout ceci est assez mauvais en soi. Mais disons que telle personne a fait du bien à son prochain, oui, mais regardez le mal qu'elle a fait. Alors vous allez dire, mais telle personne n'a fait que du bien. C'est très bien, mais sur 10 personnes qui ont fait la même chose qu'elle, 9 ont fait du mal, en plus du bien qu'elles ont fait. Donc ce n'est pas pour une personne, vous voyez ? Donc, aujourd'hui que tous ces scandales remontent à la surface et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus immonde que la charité sans Dieu, Mes très chers frères, soyons convaincus qu'il est absolument impossible à l'homme d'avoir la moindre, de faire le moindre acte de justice vrai sans la grâce explicite du Rédempteur. Sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme est absolument incapable de faire aucune action qui soit bonne, aucune action bonne qui ne soit pas entachée d'une multitude de choses horribles et qui sont même horribles aux yeux de la justice des hommes et qui pourtant est corrompue comme chacun sait. Donc voyez mes très chers frères, lorsqu'on veut absolument se persuader qu'il y a plein de braves gens en dehors de l'Église, en dehors de la foi, en dehors de la pratique du christianisme, de la vraie pratique du christianisme, qui sont capables de faire du bien, eh bien, on méprise et on bafoue l'enseignement élémentaire de la religion chrétienne. Et en plus, on est un idiot, puisqu'on sera démenti très rapidement. Donc, vous voyez, comme tout est lié, minimiser le péché originel, vous allez valoriser la justice naturelle de l'homme. La justice naturelle de l'homme est semblable à un vêtement sale et taché, dit le prophète. Il est absolument impossible de faire quoi que ce soit de juste, de droit, de bon, de saint, sans l'assistance du Saint-Esprit. Et encore, même quand nous aurions l'assistance du Saint-Esprit qui nous aurait fait faire du bien, le bien, pendant un certain temps, encore faut-il se garder de tout retour sur soi, encore faut-il se garder de contrister le Saint-Esprit, de telle sorte que le Saint-Esprit, étant venu à être chassé de notre cœur par l'orgueil et par l'appropriation, eh bien nous nous retrouvions tout seuls, et quoique chrétiens, capables de faire ce que les pires des mécréants sont capables de faire. Donc faisons très attention, mes très chers frères, ne minimisons pas le péché, ne minimisons pas non plus la justice en l'étendant à n'importe qui. L'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme sans la charité, l'homme sans le Saint-Esprit est incapable de faire aucune action bonne qui soit une véritable action bonne. Et le troisième point de ce résumé, c'est de la doctrine chrétienne, c'est le jugement. Donc nous en avons dit un mot, bien entendu. Nous devons garder à l'esprit, mes très chers frères, que le Saint-Esprit n'œuvre qu'au moyen des maximes évangéliques. Il les vivifie et les rend opérantes. De telle sorte que si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous serons jugés avec le monde. En revanche, si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous sommes toujours en train de nous dire « Est-ce que j'agis en chrétien ? Est-ce que mes occupations, mes centres d'intérêt, mes paroles, mes désirs, mes pensées, les tendances de mon cœur, est-ce que ma vision du monde correspond à celle du christianisme, est-ce qu'elle correspond, est-ce que ces choses sont compatibles et même sont les outils de ma sanctification? Si la réponse est oui, alors il faut dire, mon Dieu, sans vous je ne peux rien faire, préservez-moi, gardez-moi dans cet état, en dehors duquel il n'y a que damnation, perdition, injustice, esclavage de soi-même, esclavage du diable. Maintenant, il se trouve que si nous nous disons « non, effectivement, je ne peux pas penser, je ne peux pas juger en toute justice, je ne peux pas dire que telle ou telle chose dans ma vie est un outil pour ma sanctification », alors, mes très chers frères, jugeons-nous et prononçons la sentence contre nous-mêmes, de telle sorte que nous devancions le juge et qu'il ne nous juge pas, ou plutôt qu'il nous juge selon la justice dans laquelle, grâce au Saint-Esprit, nous nous serons maintenus et mis. Nous devons donc nous juger. Le chrétien doit être constamment en train de se juger. Il ne doit pas être en train de se juger d'une façon morbide, comme une sorte de détraqué qui est tout le temps en train de se remettre en question. Si c'était ça, ça se saurait, et puis le christianisme serait terminé dans un échec il y a déjà très longtemps. Jugeons-nous nous-mêmes, mes très chers frères. Il faut être constamment en train de se juger. Je vais communier, est-ce que je me juge pour savoir si vraiment je suis digne de communier? Si vraiment je n'ai pas quelque chose qui empêche de près ou de loin ou de près, la nécessité, qui m'empêcherait de communier, qui m'empêcherait de mal recevoir, de recevoir indignement le corps de notre Seigneur. Jugeons-nous nous-mêmes, jugeons-nous constamment à la lumière de Dieu, grâce à l'aide du Saint-Esprit, grâce aux lumières du Saint-Esprit, et nous éviterons de stériliser l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous éviterons de contrister l'œuvre du Saint-Esprit au point qu'il nous quitte et qu'il nous laisse face à nous-mêmes, c'est-à-dire non pas tels que nous sommes simplement par la nature, mais tels que nous sommes en proie aux démons, en réalité. L'Église, mes très chers frères, est le seul moyen de salut que Dieu ait pourvu à l'humanité. Nous devons rester dans l'Église, nous devons être soumis à l'Église, nous devons être de vrais chrétiens. Nous ne devons pas être des clercs qui n'en font qu'à leur tête et qui sont vagus et qui sont sans évêque, sans hiérarchie, sans rien du tout. Nous ne devons pas être des gens qui se prennent pour des laïcs et qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas soumis aux pasteurs légitimes et qui font n'importe quoi, et spécialement en usurpant les fonctions d'enseignement. Nous devons être soumis à l'Église, nous devons être des membres de l'Église, des membres soumis, ordonnés, de telle sorte que le Saint-Esprit puisse féconder nos cœurs, féconder nos actions, et que chaque action que nous faisons, après nous être jugés nous-mêmes, eh bien, soit une action qui est véritablement une action divine, alors même qu'elle serait, comme nous l'avons dit bien souvent, une action tout à fait terre-à-terre, tout à fait petite, minuscule, peut-être méprisable aux yeux des hommes, mais une action par laquelle nous travaillons à notre sanctification. Et nous arrivons à notre troisième point. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Nous avons commencé ce sermon par cette incitation de l'introïte. Ces considérations, mes très chers frères, ces considérations théologiques, doivent nous remplir de joie et de reconnaissance au point de chanter au Seigneur dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre. Il y a une façon, mes très chers frères, aujourd'hui d'aborder le dogme qui est tournée vers l'apologétique. Alors ça ne veut pas dire que on ne doit pas défendre le dogme quand le moment est si prête, mais qui est tourné vers l'apologétique exclusivement et dont le ressort secret n'est que l'orgueil. On étudie la théologie, mais c'est uniquement pour réfuter les erreurs des autres. Alors vous avez dit, est-ce qu'il ne faut pas réfuter les erreurs des autres? On étudie la théologie uniquement pour cela, on néglige la vie de son âme pour pouvoir enrichir les autres. Donc on vit comme un mécréant pratique en faisant absolument n'importe quoi, mais on est tout le temps en train de fouiner dans les livres de théologie pour faire un petit entrefilet, un petit post pour que ces milliers de followers puissent lire et être édifiés. Tandis que pour soi-même, on vit comme un chien, on fume de la drogue, on se comporte comme véritablement un mécréant, mais qu'importe, nous sommes les champions. Mes très chers frères, ce n'est pas la vraie façon d'appréhender la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne doit bien entendu s'apprendre et s'entretenir de l'Église et avec les bons livres, mais la doctrine chrétienne doit en quelque sorte être digérée et manifestée par une vie dans l'ordre, une vie embrasée par la charité, une vie qui ne se concentre sur ses divers devoirs d'État, comme autant de moyens de sanctification, une vie qui porte les œuvres de la foi par la reconnaissance. Ce sera là une condamnation bien plus efficace du monde. Alors vous allez dire, oui, mais si toutes les familles qui vivent paisiblement dans l'ordre, dans le silence, comme ça ne se manifestent pas d'une manière ou d'une autre, qui entendra parler de la vérité ? Posez-vous la question, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais posez-vous la question, regardez bien la qualité des gens qui écoutent, ou plutôt qui lisent vos petits posts et autres choses. En fait, il y a une grande majorité d'indifférents, il y a une grande majorité, allez voir un peu leur profil pour voir qui est-ce qui vous suit, vous avez une majorité de gens qui ont des images totalement indécentes, ce sont des chiens, ce sont des païens, ce sont des nationalistes païens qui se vautrent dans l'idolâtrie et qui se vautrent dans la chair et l'abjection. Et ce sont des gens qui sont simplement en lien avec vous et qui n'en pensent pas moins quand bien même ils font attention à ce que vous écrivez ou ce que vous déblatérez. De toute façon, pour eux, vous n'êtes qu'un débile à moitié judaïsé puisque vous êtes encore chrétien et que vous croyez encore à ces fadaises. Donc regardez, vous croyez à la tête d'un empire apostolique ou d'apostolat comme ça. En fait, vous êtes finalement un ego qui croit qu'il est écouté et qui en réalité, au mieux, donne des perles aux pourceaux et au pire, est en train de se damner, l'un n'étant pas exclusif de l'autre d'ailleurs. Mes très chers frères, je parle maintenant aux bons chrétiens, si tant est que les autres m'écoutent, je parle aux vrais chrétiens, je parle aux chrétiens tout court. Rien n'est plus, il n'y a pas de meilleure apologétique qu'une vie dans l'ordre, embrasée par la charité, qui porte les œuvres de la foi par la reconnaissance. C'est une condamnation bien plus efficace du monde. Soyez dans ce silence fructueux, et vous verrez que tout le monde vous tombera dessus. Pourquoi ? parce que tout le monde considérera que vous leur aurez déclaré la guerre. Une guerre impitoyable. Dieu vous protégera, mes très chers frères, c'est pour ça qu'il faut se revêtir de l'armure du chrétien, l'armure de Dieu. Mais il se trouve que les gens du monde s'apercevront que vous leur avez déclaré la guerre, alors même que vous êtes dans une attitude pacifique et que vous ne cherchez la bagarre à personne, avec personne, bien entendu. Mes très chers frères, le monde sait très bien où sont ses ennemis, et il sait très bien que ceux qui parlent et qui déblatèrent ne sont jamais que des mondains comme lui. Ceux qui se taisent et qui sont dans l'ordre font trembler le monde. Ils ne sont pas dans l'ordre pour faire trembler le monde. Le monde tremble parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Que Dieu multiplie les chrétiens, mes très chers frères, et multiplie ceux qui ne sont pas de ce monde. Dans l'Épître, qui est une épître absolument magnifique, et nous ne ferons que la parcourir très rapidement parce que ça aurait été l'occasion d'un autre sermon, écoutez ce que dit saint Jacques. « Mes bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme des prémices de ses créatures. Vous le savez, mes frères bien-aimés. A-t-on besoin même de commentaires ? On dirait que c'est la lumière même du Saint-Esprit qui nous éclaire à la simple lecture de ces paroles de saint Jacques. Tout ce qui vient par le Saint-Esprit descend du Père, de notre Père éternel, qui est invariable. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. L'immuabilité divine, mes très chers frères, doit être reflétée ici-bas par la stabilité de nos cœurs. Et c'est exactement ce dont parle l'oraison. Ô Dieu qui donnez à vos fidèles de n'avoir plus qu'un seul vouloir, accordez à vos peuples l'amour de vos commandements et le désir de vos promesses, afin que parmi les multiples attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Il y aurait beaucoup à dire sur cette magnifique oraison. Elle est bâtie d'une façon particulière, avec des mots qui se correspondent les uns aux autres. C'est absolument magnifique, nous n'avons pas le temps de la commenter ici. Remarquons simplement que ces mots, Ibi nostra fixa sint corda, afin que nos cœurs soient fixés là. Fixa, fixe, que nos cœurs soient fixés. Nous demandons dans cette oraison, mes très chers frères, rien moins que Dieu nous fasse de nous des enfants de Dieu et non pas des mondains. Nous devons vivre comme des mondains, et non pas comme nous devons vivre comme des chrétiens, non pas comme des mondains, non pas comme des pseudo-catholiques, non pas comme des nucistes, non pas comme des gens alignés sur le monde de la dissidence. Nous devons vivre avec nos cœurs unis dans un même vouloir. Ça, c'est l'entraide entre chrétiens, l'unité des chrétiens entre eux, la fraternité, et nos cœurs fixés là où sont les vraies joies. Ubi vera sunt gaudia, là où les joies sont vraies. Là où les vraies joies se trouvent. Il y aurait bien des choses à dire, peut-être pour l'année prochaine. Nous demandons à Dieu, dans le début de cette oraison, qu'il nous donne d'aimer ce qu'il commande et qu'il nous demande de désirer ce qu'il promet. Mes très chers frères, si vous avez le moindre problème par rapport à la vie chrétienne, priez simplement cette oraison. Recopiez-la sur un papier et priez-la constamment. Parce que cette oraison, c'est l'oraison que l'Église nous donne afin que nous obtenions ce qui nous fait défaut. Si nous n'arrivons pas vraiment à aimer les commandements de Dieu, si nous n'arrivons pas vraiment à désirer les promesses, ce que Dieu nous promet, prions cette prière, et cette prière ira droit aux oreilles de Dieu, dans le cœur de Dieu, et Dieu nous exaucera. Prions-la en disant, en n'oubliant pas de dire, Père Dominum Nostrum Iesum Christus, par Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, etc. Bien entendu, sinon notre prière sera amputée de sa recommandation, et Dieu ne pourrait pas l'écouter, ne pourrait pas l'exaucer. Surtout quand vous pratiquez les oraisons des dimanches, n'oubliez jamais la finale, mes très chers frères, n'oubliez jamais. Donc, ferme le parenthèse. Aimez ce que Dieu commande et désirez ce qu'il promet, afin que, mes très chers frères, nous ne nous laissions pas séduire ou décontenancer par les variations du monde. Ut inter mundanas varietates, afin que, la multiplicité mondaine, ça peut être traduit par les multiples attraits de ce monde, ça peut être traduit aussi différemment, par les variations du monde. Combien il y a de variations du monde ? Le monde varie. Aujourd'hui, on parle du vaccin, on parle des vaccins, on parle du génocide, etc. Tout ceci, même si c'était vrai, je ne pense pas que ça soit vrai, mais même si c'était vrai, Ce ne sont jamais que des variations mondaines, mes très chers frères, et nos cœurs ne doivent pas être autre part que fixés là où sont les vraies joies, c'est-à-dire là où est la félicité éternelle, la récompense des récompenses, Dieu lui-même. Mes très chers frères, ne nous laissons pas avoir par tous ces gens qui nous parlent, des gens malheureusement parfois qui se disent catholiques, mais qui nous parlent, qui nous terrorisent avec toutes ces choses dont on n'est même pas certain. Et quand bien même elles seraient vraies, rien ne sort de la volonté de Dieu. Amen, alléluia. Rien ne sort de la volonté de Dieu. Quand bien même le monde entier serait en train de se suicider, nos cœurs doivent être fixés là où vera sunt gaudia, là où les joies sont vraies, là où sont les vraies joies. Nous devons considérer toute chose en Dieu à la lumière de la foi, mes très chers frères, et cette lumière de la foi nous rend inébranlables comme Dieu et sans changement ni ombre de vicissitude. Si nos cœurs sont fixés en Dieu, si nous sommes dans l'ordre, si nos cœurs sont fixés en Dieu, alors, mes très chers frères, toute grâce excellente, tout don parfait, descendant d'en haut, du Père des Lumières, nous sera donné. C'est dire que si nous ne le sommes pas, rien ne nous sera donné, sinon les ténèbres. Et il y a des ténèbres qui sont des ténèbres naturelles, qui consistent simplement dans la privation de la lumière divine. Et puis il y a les ténèbres de la volonté propre qui sont un endurcissement dans les premières ténèbres. Mes très chers frères, que Dieu nous garde l'endurcissement. Prions simplement que Dieu nous donne d'aimer ses commandements, de désirer ses promesses et d'avoir nos cœurs fixés là où sont les vraies joies. Alors, mes très chers frères, dès ici-bas, notre vie sera un paradis terrestre, notre vie sera au milieu de toutes les croix quelque chose d'extrêmement désirable, sera, comme disent les saints, un avant-goût du ciel, sera l'antichambre du ciel, et tous les jours de notre vie, quelque accablés que nous puissions être, quelque meurtris, persécutés, pourchassés, nous chanterons au Seigneur ce cantique nouveau, cet Alléluia qui résonne dans l'éternité. Toute l'œuvre du Christ aboutit au don du Saint-Esprit, mes très chers frères. Désirons-le, préparons-nous à la fête de la Pentecôte, désirons le don du Saint-Esprit, sachant que lui seul est notre Dieu, lui seul est notre lumière, et que partout ailleurs, il n'y a que ténèbres, esclavage du diable et tristesse sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.